Nous sommes au Festival du Livre de Moinsartou. J'accueille avec plaisir Léonard de Léo. Alors Léonard de Léo, vous êtes enseignant et vous êtes ici pour quelle raison sur ce salon ?
Je fais partie du groupe local de l'ICEM Pédagogie Freinet. On est présent pour chaque festival du Livre de Moinsartou. Donc on a un stand puisque l'une des activités de l'ICEM consiste à produire des documents de divers types. Ça va de l'outil destiné aux enseignants, ça passe par des revues destinées aux enfants de différents âges, jusqu'à des productions. Il y a une revue aussi pour destinée aux enseignants et des livres de réflexion pédagogique.
Tout d'abord, on va parler de cette pédagogie Freinet. De quoi s'agit-il ?
La pédagogie Freinet a fait partie des mouvements, ce qu'on appelle la pédagogie nouvelle. Elle a été initiée par Célestin Freinet, donc ça date du début du XXe siècle. Alors en quoi est-ce qu'elle consiste ? Très brièvement, je pense que la particularité de cette pédagogie consiste à remettre en cause le rapport entre l'enseignant et l'enfant, entre l'éducateur et l'enfant, pour permettre à l'enfant de s'emparer de ses apprentissages, de son parcours d'apprentissage, voilà, de prendre des décisions dans ce domaine-là.
Donc devenir responsable en quelque sorte.
Devenir responsable de ce qu'il apprend, oui. Et donc il y a plusieurs... Alors il ne s'agit pas d'une méthode comme on pourrait le penser. En fait, il s'agit d'appliquer un certain nombre de principes à mettre en œuvre dans les conditions dans lesquelles on se trouve en situation d'éducation.
Alors est-ce qu'il y a, question idiote, hein, mais est-ce qu'il y a une certification justement de cette méthode où chacun l'entreprend comme il le souhaite ?
Non, il n'y a pas de certification pour l'instant, en tout cas en France. Ça peut exister dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne par exemple, où effectivement le mouvement Freinet a travaillé là-dessus. En France, on n'est pas prêt à le faire puisque... comme je l'ai dit, il s'agit d'appliquer des principes et c'est compliqué d'établir une certification. En plus, l'ICEM a décidé de développer sa pédagogie dans l'école publique. C'est le choix de chaque enseignant ou chaque éducateur de mettre en œuvre ces principes.
Est-ce que c'est une méthode qu'on peut rapprocher d'autres mouvements comme l'école Montessori, comme des... effectivement changer le rapport de l'enfant à cet univers qu'est l'éducation ?
Oui, bien sûr. Bah, historiquement, justement, un certain nombre de mouvements ont été proches, ont eu ce projet commun, justement, au sortir de la Première Guerre. C'était la guerre plus jamais ça, et donc il faut former, éduquer les enfants pour une société
adulte,
oui, qui ne produira plus de guerre. Bon, c'est évidemment... on a vu ce que ça donnait, c'est une utopie, évidemment. En ce sens, on peut se rapprocher d'un certain nombre d'autres mouvements pédagogiques, oui, GFEN... de Montessori, etc., enfin, de Crowley, par exemple, et d'autres.
Alors on a le sentiment qu'avec ces pédagogies, les enfants deviennent plus responsables, plus maîtres donc, presque de leur destin, on pourrait dire, et qui ont une facilité d'apprendre et d'écoute vis-à-vis des autres, ou je me trompe ?
Notre conception de l'apprentissage nous pousse à penser qu'on ne peut pas apprendre si on n'est pas impliqué dans la conception de l'apprentissage elle-même. On peut faire cette observation parmi les chercheurs, par exemple. Lorsqu'un chercheur se met à développer une thèse, des hypothèses, c'est toujours par son histoire personnelle. Ce sont des choix personnels. Un apprentissage, ça ne peut pas s'injecter.
La présence unique, oui.
Voilà, donc ça se construit.
Exact.
Donc c'est à partir de chaque individu, du parcours de chaque individu. C'est un des principes.
Chaque individu est mieux pris en compte. Vous parlez de principes, est-ce qu'il y a des principes dont on peut parler ici ?
Oui, bien sûr.
Quels sont-ils, par exemple ?
Alors, le processus d'apprentissage oblige, par exemple, à l'expression, la création. Enfin, en pédagogie Freinet, on parle, par exemple, de méthode naturelle, enfin, qu'il faudrait définir, développer, ce serait long, mais qui, malgré l'utilisation de ces termes, n'est ni une méthode, et elle n'est pas naturelle non plus. C'est pas une méthode, puisque, justement, comme je viens de le dire... il s'agit d'appliquer des principes et elle n'est pas naturelle au sens commun du terme, c'est-à-dire qu'en fait elle est plus sociale, c'est-à-dire qu'elle est naturelle au sens où elle tient compte de l'aspect social des apprentissages, c'est-à-dire qu'un enfant développe des apprentissages parce que autour de lui, il constate que ces apprentissages vont être efficaces. Voilà, une méthode naturelle passe aussi par le tâtonnement, ce qu'on appelle le tâtonnement expérimental, c'est-à-dire un enfant, lorsqu'il agit, il apprend en agissant sur son environnement, et lorsqu'il agit sur son environnement, il se transforme, puisqu'il a un effet sur lui, et ce qu'il a produit renvoie à autre chose. Donc c'est expliqué un peu rapidement.
Concrètement, comment un enfant peut agir sur son environnement, justement, au sein de l'école?
Ça peut être dans tous les domaines. En mathématiques, par exemple, il a un regard mathématique sur le monde, et intervenir soit en réfléchissant, soit... Moi, je travaille en maternelle, par exemple, donc en jouant avec tout objet, on peut justement faire des tentatives en numération, en géométrie, etc. Donc ce qu'il va, entre guillemets, spontanément produire, le transforme.
Est-ce que vous tenez compte du rythme d'apprentissage de l'enfant? Certains vont être plus développés dans certaines matières.
Absolument, au sens où, justement, l'intervention de l'éducateur est celle de l'accompagnement, en réalité. C'est-à-dire que, en fait, l'éducateur, dans ce cas-là, doit observer, soutenir et suivre, en fait, l'activité de l'enfant. En ça, on pourrait dire que, oui, il respecte le rythme d'apprentissage de l'enfant, mais pour chacun des enfants. Je pourrais développer aussi, par ailleurs, un certain nombre d'idées qui ont été reprises après dans l'éducation nationale. Je pense, par exemple, au fonctionnement par cycle, dans l'éducation nationale, qui consiste à justement prendre en compte un parcours non plus fermé sur une année scolaire, mais sur 3 ans. Et c'est au bout des 3 années qu'on voit si l'enfant a besoin d'être maintenu, par exemple, ou si au bout de 2 ans, il peut aller plus loin, plus vite, par exemple. Évidemment, ça demande une autre façon d'enseigner. Et c'est le problème, justement, dans l'éducation nationale, c'est que ce genre de mesure n'est pas accompagné par une transformation des pratiques.
Et puis en plus, j'imagine qu'il faudrait que les enfants puissent suivre un parcours sur plusieurs années, à la limite en changeant d'établissement, pouvoir poursuivre cette même méthode. C'est compliqué, là. Ou il peut s'adapter
Ça serait l'idéal, évidemment, pour nous, si on parle en termes d'efficacité de l'apprentissage. Mais on a déjà constaté que les enfants s'adaptent déjà dans le système actuel commun. Ils doivent s'adapter à des enseignants différents. Je pense au collège, par exemple, où ils passent d'une heure à l'autre à un système proposé par l'un des profs, à un autre système par un autre prof. On ne constate pas de difficultés liées à ces pratiques particulières.
L'ISEM donc est l'institut coopératif de l'école moderne. Ça veut dire aussi que vous êtes plusieurs à proposer des choses. Vous êtes combien au sein de cet institut?
Dans cet institut, en France, on est environ 1 millier d'adhérents. Pour une grosse partie, ce sont des enseignants. Il y a quelques éducateurs, un secteur de travail qui s'appelle pédagogie sociale, donc qui travaille en milieu extérieur. Il y a quelques éducateurs aussi, mais pour l'essentiel, nous sommes des enseignants, oui.
Et donc vous réunissez pour essayer d'encourager cette pratique, ou comment vous servez de levier pour une promotion
Déjà, on se réunit pour soi d'abord, c'est-à-dire que c'est pas simple du tout de mettre en œuvre cette pédagogie. Ça demande réflexion, ça demande le regard des autres, justement. Donc dans nos groupes de travail locaux, les pratiques les plus courantes consistent à aller dans la classe d'un de nos collègues et justement d'échanger sur ses tentatives de transformation de sa classe et de ses pratiques. Voilà. Et ensuite, on a donc des groupes nationaux qui réfléchissent plus particulièrement dans certains domaines et qui sont amenés, par exemple, à produire des ouvrages, participent aux revues, etc.
Alors, le cadre de l'éducation nationale n'est-il pas parfois trop rigide pour pouvoir appliquer, ou il faut négocier beaucoup pour pratiquer?
Alors, cette pédagogie, ça peut être le cas, ça dépend des politiques éducatives en vigueur. Alors, il y a le contexte national qui évolue, qui change. Donc moi, qui ai un certain âge maintenant, j'ai vu différentes politiques être mises en œuvre, et certaines fois, par exemple, certains des principes ont été promus par l'éducation nationale. C'est bien plus compliqué en ce moment, puisque effectivement les préconisations sont un peu plus éloignées, puisqu'il s'agit de faire appel plus aux neurosciences, actuellement, semble-t-il, par exemple.
Que pensez-vous des restrictions draconiennes qui ont eu lieu sur l'éducation, à la maison?
Je trouve que c'est dommage. C'est un problème d'ailleurs, puisque certaines familles peuvent avoir un passif vis-à-vis de l'école et ont pu connaître justement des difficultés dans ces rapports avec l'école, parce que en France en particulier, le rapport entre famille et école est très difficile. Il y a une espèce de défiance mutuelle, globalement, hein. Mais ce système-là ne convient pas de toute façon à certains enfants, même s'ils sont minoritaires. Ça peut être source de très grandes souffrances pour les enfants. Donc le recours à l'éducation en famille est une solution pour ces enfants-là.
Et vous mettez en place ces principes dans des classes de l'éducation
courante.
Nationale.
Oui, courante. Absolument, oui.
Et est-ce qu'il y a des inspecteurs qui sont plus ouverts à ces méthodes et d'autres moins?
Oui. Ça dépend, donc effectivement, nos supérieurs hiérarchiques sont les inspecteurs de l'éducation nationale, par circonscription. Et effectivement, certains inspecteurs sont plus ou moins au fait des principes de cette pédagogie-là en particulier, mais d'autres pédagogies. D'autres sont plus fermés, effectivement. Donc oui, les facilités pour appliquer cette pédagogie-là dans nos classes peut dépendre de la position de ces inspecteurs.
Mais pas du ministère de l'Éducation nationale.
C'était moins le cas avant. Alors, on joue toujours de la liberté pédagogique dans l'éducation nationale, sauf que, dernièrement, des contrôles sont mis en œuvre, un peu plus pressants, donc par les circonscriptions, justement, par les inspecteurs de l'éducation nationale, qui peuvent venir vérifier l'usage de telle ou telle méthode, en particulier dans les classes de CP. Et puis il y a une grosse pression aussi liée à la mise en place des évaluations nationales qui finalement demandent à ce que, qu'on le veuille ou non, et malgré les discours qui le nient, demandent à ce qu'on prépare les enfants à réussir ces évaluations particulières.
Enfin, Léonard de Léo, si jamais on souhaite échanger avec vous-même ou évidemment l'ICEM, y a-t-il un moyen, y a-t-il un site, un téléphone,
on peut... On peut joindre le groupe local de l'ICEM Pédagogie Freinet, qu'on appelle groupe départemental 06, par une adresse de messagerie, qui est gd06@icem-du6freinet.org.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Léonard ?
Oui, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre cette pédagogie, un des principes fondamentaux en pédagogie Freinet et qui peut se démarquer d'autres pédagogies, c'est le recours essentiel au groupe. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il est en activité, ensuite il vient rendre compte au groupe, les autres ayant eux-mêmes pratiqué ces activités-là de leur côté. Et c'est par ces échanges-là aussi que se constituent les apprentissages.
Comme ça, une société se crée avec des débats et des échanges de points de vue.
Absolument.
Pour la notation, c'est la même chose ?
Pour la notation, alors...
Parce que ça, c'est un point,
oui,
absolument, c'est un point crucial,
oui,
en éducation nationale.
Oui. Donc, en pédagogie Freinet, on a une position claire, oui. Et nous ne sommes pas les seuls. Hein. La notation, alors même si on nous demande de la pratiquer, non seulement n'aide pas à apprendre, mais peut empêcher d'apprendre. Donc, nous pratiquons d'autres types d'évaluations. En particulier celle qui est très très courante, fréquente, qui consiste à observer justement les enfants tout au long de leur parcours d'apprentissage.
De les suivre vraiment, comme des êtres humains.
Et oui, nous ne sommes pas des ordinateurs, un apprentissage ne peut pas se programmer, nous sommes des systèmes vivants.
Léonard, merci beaucoup.
Merci à vous. Avec plaisir.